Alors nous sommes maintenant à la charnière entre le jour 8 et le jour 9. Je suis la charpente des évangiles synoptiques. Il y a d'abord une première étape. Quel est cet homme qui ? Celle que nous avons faite hier. Et puis ensuite, qui dites-vous que je suis ? Sur la montagne qui est là-bas au nord du pays. Qui dites-vous que je suis en terre païenne ? La transition, nous l'avons faite à Bethsaïde hier. On peut faire Bethsaïde aussi le 9e jour. C'est tellement à cheval sur les deux qu'on peut le faire le 8e ou le 9e jour. Mais nous avons commencé par le premier lundi, le deuxième jour de la première semaine, et nous sommes partis en direction du sud. Et après avoir franchi deux seuils, nous sommes arrivés à la montagne où on a rencontré Moïse et Élie. Nous avons rebondi en direction de Jérusalem. En ce deuxième lundi, ce deuxième jour de la deuxième semaine, nous partons vers une autre montagne, celle de la Transfiguration. Nous allons aussi rencontrer Moïse et Élie qui vont nous parler de l'exode que Jésus fait à Jérusalem. Vous sentez ce balancement. On va aujourd'hui aller jusqu'à l'extrémité nord du pays où s'opère un grand tournant. Vous entendez maintenant le Jourdain là ? Alors vous me direz que c'est le Jourdain ça, mais le Jourdain, on l'a remonté hein, entre Jéricho et puis le lac, il est tout à fait différent. Il fait des méandres interminables dans les anciens fonds lacustres d'une mer unique qui joignait autrefois des époques géologiques reculées, la mer morte et le lac. Et ici, le Jourdain ressemble plutôt à un torrent alpestre. Il coule dans un bouchon volcanique qui est au bord du lac. Les petits volcans qu'on va voir tout à l'heure quand on va grimper ont craché de la lave à différentes époques de l'histoire. Cette lave a formé un barrage, un bouchon, et empêche les eaux très abondantes qui sont au nord du pays. Du côté de Dan, nous allons évoluer. Quand on dit que la terre promise s'étend de Dan à Beersheba, c'est pas seulement diamétralement opposé, c'est le contraire. À Beersheba, rappelez-vous, il n'y a pas d'eau, c'est le désert. Et ici, au contraire, il y a trop d'eau. Et il y a 7000 hectares de terres fertiles qui ont été récupérées là, et qui étaient sous la menace de cette ligne Maginot là, dont vous apercevez un fortin là. 7000 hectares de terres fertiles. Et dans la Bible, le pays de Dan est décrit comme un pays où rien ne manque de ce que l'homme peut désirer sur la terre. Si vous prenez une carte d'il y a une quarantaine d'années, vous verrez encore un petit lac qui ressemble au lac de Kinneret dans sa forme harmonieuse, qu'on appelle le lac de Roula. Et bien avant la fondation de l'État d'Israël, des pionniers là, allant par-dessus tous les dangers qu'ils pouvaient courir par ici, au point de vue de la malaria, des fièvres, des moustiques, ont entrepris des travaux d'assèchement des marécages et ont récupéré 7000 hectares de terre fertile sur ces marécages. Et il fallait d'abord élargir le cours du Jourdain dans ce bouchon volcanique pour faciliter l'écoulement des eaux. Ils ont fait ensuite des canaux nord-sud, des canaux transversaux. Et puis, comme ils sont amoureux de la nature, ils ont gardé une réserve naturelle passionnante à visiter parce que des tas d'espèces d'oiseaux se sont développés là, qui voulaient garder du côté de Roulatin. Alors, ce bouchon volcanique là a aussi un grand avantage dans l'histoire, c'est qu'il permet de franchir facilement le Jourdain. Et la célèbre Via Maris, dont on a déjà parlé, dont on reparlera, elle passe ici. Et à toutes les époques de l'histoire, l'endroit où nous sommes a été un endroit stratégique de toute première importance. Toujours les caravanes qui venaient d'Égypte et qui allaient du côté de Damas et de la Mésopotamie ou qui, en sens inverse, sont passées par ici. Et la ville de Hatzor doit sa célébrité de la plus haute antiquité, bien avant le temps dont nous parle la Bible, à sa situation comme contrôlant ce pont qu'on appelle le pont des filles de Jacob, parce que, alors ça c'est une histoire que je vous raconterai, on va l'oublier, vous la placerez où vous voulez, à l'époque des croisades, et cet endroit était important comme à toutes les époques de l'histoire. Et nous sommes ici sur un château croisé, vous en devinez encore la forme, il s'appelle le Chastelet, et il contrôlait le pont des filles de Jacob. Pourquoi est-ce qu'on appelait le pont des filles de Jacob ? C'est intéressant pour voir comment se forment quelquefois des lieux saints folkloriques. Il y avait à Safed, Tzfat, alors il y avait un couvent de religieuses contemplatives. Et ces religieuses contemplatives n'étaient pas dans le circuit économique comme certaines actuellement. Mais à cette époque-là, elles vivaient de leur dot ou bien de dons. Et elles étaient propriétaires du pont des filles du pont en question. Alors les gens qui passaient, qui en avaient marre de casquer, là, ils les appelaient les filles de Jacob. Et il paraît que ces pauvres-là, elles sont mortes de martyrs à l'époque des Mamelucs. On dit qu'elles s'étaient coupées le nez pour amoindrir leur séduction. On les retrouvera au ciel. Bon, voilà pour l'histoire des filles de Jacob. Et c'est intéressant de voir comment cette tradition s'est tellement bien ancrée qu'elle a pompé, pas les souvenirs de Jacob qui se passe beaucoup plus au sud, au Jabok, jusqu'ici. Vous avez ici un kibbutz qui a repris le nom de Bahanaïm, qui fait partie de l'histoire de Jacob. Si vous lisez l'histoire de Jacob, retour à travers les montagnes de Galaad et puis revenant vers Sichem en traversant le Jourdain du côté de Mahanaïm. Bon, voilà pour le pont des filles de Jacob. Mais alors, il a une grande célébrité tout au long de l'histoire. Et à l'époque de Jésus, le Jourdain était la frontière entre les états d'Hérode et les états de Philippe. Et Capharnaüm est dans les états d'Hérode et Bethsaïde Julia, c'est dans les états de Philippe. Et nous allons vers le nord, vers Césarée de Philippe. Pas ne pas confondre avec Césarée maritime.